VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du mardi 7 avril.
À la une ce soir, en République démocratique du Congo, les autorités de la province de Kinshasa s'expliquent sur la découverte cette semaine d'un charnier contenant plus de 400 cadavres.
Et Morgane, il y a aussi cette vague d'arrestations au Burkina Faso.
Une demi-douzaine de proches de Blaise Compaoré ont été arrêtés depuis hier, alors qu'un projet de loi excluant les partisans de l'ex-président burkinabé des élections d'octobre devait être voté aujourd'hui.
Au Kenya, un sixième suspect était interrogé ce mardi par la police après le massacre de l'université de Garissa la semaine dernière.
Crise au Yémen, l'aide humanitaire commence à arriver dans la capitale, Sanaa.
Procès de l'unique accusé dans les attentats du marathon de Boston. Le dossier est maintenant entre les mains du jury.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
République démocratique du Congo, les autorités de la province de Kinshasa se sont justifiées aujourd'hui de l'existence d'une fosse commune dans l'ouest de la ville, affirmant que les corps enterrés étaient en majorité des fœtus ou des morts-nés, une mise au point destinée à faire taire une rumeur sur la présence éventuelle d'opposants politiques parmi les cadavres. L'AFP cite une déclaration de Robert Luzulanu Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa. Selon cette déclaration, la fosse contiendrait 300 morts-nés et des fœtus abandonnés, 23 corps qui ont été abandonnés, des indigents au nombre de 34 et 64 personnes non identifiées. Selon M. Mavema, l'enterrement collectif est une pratique courante.
Retour sur l'enlèvement samedi d'un étranger dans le nord du Burkina Faso. Bagassikoura, ce soir on apprend que les recherches se concentrent dans le nord Mali.
Le gouvernement burkinabé avait indiqué samedi soir dans un communiqué que les ravisseurs avaient pris la fuite vers la frontière du Niger. Eh bien aujourd'hui, un haut gradé de l'armée burkinabé a affirmé à VOA Afrique que les ravisseurs ont traversé le fleuve Niger et se trouvent désormais dans le nord du Mali où les recherches sont désormais concentrées. Le fait qu'aucun groupe n'ait revendiqué l'enlèvement jusqu'à ce jour rend ces recherches très compliquées selon cet officier, membre de la cellule de crise mise en place par les autorités burkinabées. Il affirme que des renforts de l'unité antiterroriste du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde de Blaise Compaoré, ont été dépêchés sur place, de même qu'une unité de paracommando de Bobo Dioulasso. Nous bénéficions du soutien de l'opération Barkhane, dit l'officier burkinabé. L'otage en question est Gergout Lilian, 39 ans. Selon l'officier burkinabé, c'est un Roumain, ancien légionnaire français. Des sources au Quai d'Orsay et au sein du ministère français de la Défense affirment que l'otage n'est pas de nationalité française. Il était chargé de la sécurité de la mine de Tambao, la plus importante mine de manganèse du Burkina Faso.
Vague d'arrestation au Burkina, une demi-douzaine de proches de l'ex-président Blaise Compaoré ont été arrêtés depuis hier, alors qu'un projet de loi excluant les membres de son régime des élections d'octobre devait être voté ce soir. En tout cas, c'est ce que rapporte l'ancien parti au pouvoir qui dénonce un harcèlement des autorités. La police les soupçonnait de vouloir préparer une insurrection à partir de Bobo Dioulasso à propos du vote, estime le CDP. Parmi eux, il y aurait trois anciens ministres, Jérôme Bougouma, ex-ministre de la Sécurité, Jean-Bertin Ouédraogo, qui était aux infrastructures, et Salif Kabouré, en charge des mines. Ces arrestations ont été confirmées par deux sources sécuritaires, sous couvert d'anonymat.
Au Mali, le Néerlandais Jacques Richke est arrivé aujourd'hui à Bamako, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011. Il a été libéré hier à l'aube par l'armée française près de Tessaïte, dans l'extrême nord du Mali. Au Kenya, un sixième suspect était interrogé ce mardi par la police après le massacre de l'université de Garissa la semaine dernière. Les autorités détiennent désormais cinq Kenyans et un Tanzanien accusés d'avoir aidé le commando ayant mené l'attaque revendiquée par les islamistes somaliens Al-Shabaab. La justice a prolongé de 30 jours la garde à vue des six hommes.
Au troisième jour du deuil national décrété au Kenya, plus de 200 étudiants sont descendus dans les rues de Nairobi ce matin pour dénoncer ce qu'ils appellent l'incapacité du gouvernement à protéger sa population. C'est visiblement un sentiment de colère qui règne aujourd'hui dans le pays, Salwa Jafari.
Une foule en colère, non pas marchant, mais courant à travers les principales artères de Nairobi. la plupart vêtus en noir pour rendre hommage à leurs camarades tombés sous les balles. Mais au-delà de la tristesse, c'est la colère qui animait aujourd'hui le cortège. Les manifestants se sont arrêtés au seuil du bâtiment de la présidence pour se faire entendre. Ils demandent réparation, compensation, une meilleure sécurité sur le campus et ailleurs.
Nous devons mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il soit plus sérieux en ce qui concerne notre sécurité. Nous ne nous sentons plus sûrs.
Les forces de la police sont partout. À chaque fois qu'ils s'approchent des manifestants, la colère monte d'un cran. Où étiez-vous ? Où étiez-vous ? Crie-t-il. La police, en tout cas, vient d'arrêter un sixième suspect et interroge désormais cinq Kenyans et un Tanzanien. Et pour ne rien laisser échapper, les autorités kenyanes ont même promis une récompense de plus de 200 000 dollars pour la capture de celui qu'elles présentent comme le cerveau de l'attaque, Mohamed Mohamoud, alias Kuno.
Quatre soldats tunisiens ont été tués aujourd'hui et huit autres blessés dans une embuscade dans la région de Kasserine, une zone d'activité des djihadistes armés dans le centre-ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé la télévision nationale Watania 1, citant le ministère de la Défense.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un premier avion transportant du personnel médical du Comité international de la Croix-Rouge est arrivé à Sanaa, capitale du Yémen. C'est ce qu'a annoncé ce mardi dans un tweet le directeur des opérations du CICR. Selon une porte-parole de l'organisation, un avion cargo chargé d'aide médicale, actuellement en attente à Amman, en Jordanie, devrait très bientôt décoller pour le Yémen. Peut-être qu'il a déjà décollé. Précision de Michel Joseph.
La situation humanitaire du pays est jugée alarmante après près de deux semaines de frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les positions des rebelles chiites. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux et cliniques sont en train de diminuer au Yémen, où les populations souffrent en outre de pénuries de carburant et d'eau, alors même que les stocks de nourriture se raréfient. Le CICR avait appelé samedi à une trêve humanitaire de 24 heures. Trois volontaires du Croissant-Rouge ont été tués la semaine dernière après avoir été pris pour cible alors qu'ils venaient en aide à des blessés. D'autre part, et selon l'UNICEF, le conflit a fait une centaine de milliers de déplacés pendant que l'on continue de faire courir des risques de maladie aux enfants lorsqu'ils ne sont pas tués ou mutilés.
À New York, les autorités ont appréhendé une quatrième personne soupçonnée de vouloir soutenir le groupe État islamique. Dilkayot Kasimov, un New-Yorkais de 26 ans, est accusé d'avoir voulu se rendre en Syrie dans le but de participer au djihad violent, selon le département américain de la justice. Trois autres suspects ont récemment plaidé non coupables pour des poursuites identiques. Un verdict de culpabilité à l'encontre de Kasimov entraînerait jusqu'à 30 ans de prison. Il doit comparaître le 8 avril.
Procès de Johar Sarnaev, unique accusé dans les attentats du marathon de Boston. Les délibérations du jury ont commencé aujourd'hui. Félix Yepassi-Zembro, le verdict de culpabilité est quasi certain.
En effet, la culpabilité de Johar Sarnaev ne fait pratiquement aucun doute. Même la défense a reconnu sa participation dans les attentats du 15 avril 2013 qui ont fait 3 morts et plus de 260 blessés. Ce qui est en jeu, c'est la peine encourue par l'accusé. En fait, 17 des 30 chefs d'accusation sont passibles de la peine de mort. Les 12 jurés doivent tout de même décider si le jeune Sarnaev est coupable ou non de chacun de ces chefs d'accusation. À signaler que la phase du procès consacrée au prononcé de la peine ne débutera qu'après le verdict. Dans son argument final, la défense a fait valoir hier que le cerveau des crimes reprochés à son client était plutôt Tamerlan Sarnaev, le frère aîné de Djokhar, mort dans un échange de tirs avec la police. Il a fabriqué les bombes et planifié l'attaque, a déclaré l'avocate Judy Clark. Mais durant tout le procès, l'accusation s'est attachée à décrire le jeune Tchétchène, devenu citoyen américain depuis 2012, tout simplement comme un terroriste.
À Moscou, des centaines de personnes ont rendu hommage ce mardi à l'opposant Boris Nemtsov, assassiné en février dernier devant le Kremlin. Sur place, un des leaders de l'opposition, Vladimir Ryzkov, a critiqué l'enquête en cours. 40 jours après le meurtre de Nemtsov, on ne connaît toujours pas qui l'a tué ou qui a ordonné de le tuer, a-t-il dit. Avant sa mort, Boris Nemtsov préparait un rapport sur l'implication de la Russie dans le conflit ukrainien. Ce rapport pourrait être publié d'ici la fin du mois par un de ses proches, Ilyan Yashin. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Le président camerounais Paul Biya a décidé de mettre en place un compte bancaire pour recueillir les fonds issus de l'élan de solidarité en faveur de l'armée chargée de lutter contre Boko Haram, rapporte l'agence de presse africaine. De nombreuses contributions affluent de toutes parts. Selon le ministre de la Communication, plus de 172 millions de francs CFA et près de 400 tonnes de produits divers ont été recueillis jusqu'ici. Selon la revue en ligne Les Afriques, relayée par la presse mauritanienne, le ministre mauritanien de l'économie et du développement, Sidi Ould Tah, succédera à l'Algérien Abdelaziz Kelef le 9 avril à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, basée à Khartoum au Soudan. Entre autres fonctions dans la finance, le Mauritanien a occupé entre 1999 et 2006 un poste à la Banque islamique pour le développement, basé à Djeddah, en Arabie saoudite, rappelle le journal en ligne Al-Akhbar. Le site web de littérature Actualité a publié une analyse disant que, selon une étude de l'African Governance and Development Institute, le téléchargement illégal en Afrique augmente le niveau d'alphabétisation et la diffusion des connaissances. Ainsi, certains chercheurs mettent en garde contre des politiques trop strictes de l'utilisation du web, non sans rappeler que la protection du droit d'auteur n'est pas à remettre en cause.
Voilà pour la Minute Éco avec Nathalie Barge. Merci.
Plein feu sur les stades, c'est la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir à nouveau.
Mais avant de parler résultats, disons que Sepp Blatter a reçu aujourd'hui un soutien important pour son élection.
Ouais, un soutien de taille. Hein. Le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a réaffirmé ce mardi chez Urbain au Caire que l'Afrique soutenait fermement la candidature du patron sortant de la FIFA, Joseph Blatter. Ce dernier, je vous le rappelle, brigue un cinquième mandat à 79 ans et sous le feu des critiques.
Ce n'est pas que dans le monde politique que cela se produit.
Ben, l'appétit vient en mangeant. Il faut que Sepp continue ce qu'il a commencé il y a des décennies.
Au moins, Hayatou le pense.
Voilà. Et puis, le Suisse, donc, Sepp Blatter, patron du foot mondial depuis 1998, sera confronté à trois autres candidats donc, à l'élection le 29 mai à Zurich du président de la Fédération internationale du football éclaboussé par les soupçons de corruption. Son action pour l'Afrique parle pour lui. Pour nous, il est toujours l'homme de la situation. C'est en tout cas ce qu'a lancé M. Hayatou à l'ouverture d'une assemblée de l'Assemblée générale annuelle de la CAF à son siège au Caire.
Alors Bagassi, autre sujet, qui va abriter la CAN 2017?
Eh bien, on le saura probablement demain à l'issue de la 37e Assemblée générale de la CAF dont je parlais tout à l'heure. Et c'est alors que l'on saura quel pays de l'Algérie, du Gabon ou du Ghana aura l'honneur d'accueillir la CAN 2017 qui avait été initialement attribuée à la Libye. Vous avez une préférence là?
Non, pas du tout.
L'Algérie, Ghana, Gabon?
Peut-être le Ghana, on reste en Afrique de l'Ouest.
Ok.
Football en Angleterre?
Oui, Manchester City a fait la mauvaise opération hier soir lors de la 31e journée en Premier League. Défaite 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Les Citizens sont désormais 4e au classement, Chérubin.
Parlons basket NBA. Résultat.
Oui, un seul match était au programme hier soir. Brooklyn s'est imposé sur son parquet face à Portland, 106 à 96. Les Nets conservent leur 7e place de la conférence Est qualificative pour les playoffs. Et hier, la NBA a annoncé que l'ancien joueur de Denver, Atlanta et Houston, Dikembe Mutombo, que vous connaissez certainement.
Oui, je le connais, Dikembe Mutombo. Voilà, j'aimerais être de sa taille.
Voilà, ils ont donc décidé qu'il faisait désormais partie de la promotion 2015 du Hall of Fame, le temple de la renommée qui distingue les plus grandes gloires du basketball.
Et Mutombo a joué de 91 à 2009 dans la NBA. Merci Bagassi.
Et il a aujourd'hui 48 ans.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et chez Robin Dorsil et Morgane Guiriec en votre compagnie, place au dossier du jour.
Alors, on va commencer en République démocratique du Congo, où les autorités de la province de Kinshasa ont essayé de donner une réponse aujourd'hui à cette affaire de charnier découverte dans l'ouest de la ville. Le gouverneur par intérim Luzolanu Mavema a déclaré que les corps enterrés étaient en majorité des fœtus ou des morts-nés, une mise au point destinée à faire taire une rumeur sur la présence éventuelle d'opposants politiques parmi les cadavres. Alors, où en est-on avec l'enquête concernant cette histoire de charnier? Eddie Isango en a parlé avec la chercheuse principale de Human Rights Watch, Ida Sawyer.
Les autorités judiciaires congolaises ont commencé une enquête sur la fosse commune à Maluku et ils étaient sur place hier. Jusque maintenant, donc ils n'ont pas commencé avec l'exhumation des cadavres, on ne sait pas s'ils vont le faire ou pas. Et de notre côté, on pense qu'il reste un certain nombre de questions sans réponse sur la fosse commune. Nous espérons qu'ils vont accepter les observateurs et les experts internationaux à travailler avec eux. Et nous espérons que l'enquête sera vraiment indépendante et crédible.
Qu'est-ce que le gouvernement vous dit exactement?
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC a déclaré que près de 425 corps ont été enterrés au milieu de la nuit, le 19 mars, à Maluku, à la périphérie de Kinshasa. Et selon le gouvernement, ceux qui sont enterrés incluent des corps non identifiés, les corps des indigents ou des personnes qui étaient abandonnées par leurs familles ou dont les familles ne pouvaient pas payer l'enterrement, et aussi des morts-nés. Nous étions très étonnés par les chiffres des personnes qui étaient enterrées dans une seule fosse. Ce janvier, à Kinshasa, des dizaines de personnes ont été tuées lors d'une répression brutale des manifestations à Kinshasa pour protester contre les modifications proposées à la loi électorale. Et dans de nombreux cas que nous avons documentés, les corps des victimes ont été amenés par la police ou les soldats de la garde républicaine. Et certaines familles n'ont toujours pas été en mesure de localiser les corps de leurs proches qui ont été tués.
Et vous êtes souvent convié par le gouvernement quand il s'agit de situations comme ça. Est-ce que le gouvernement vous associe quand il faut enterrer les cadavres des indigents, par exemple un grand nombre comme ça? Quelle est la procédure normale?
Selon donc, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, normalement, s'il y a des morts-nés ou des corps des indigents ou des personnes abandonnées, ils sont enterrés par l'hôtel de la ville ou le gouvernement. Mais il n'attend pas jusqu'il y a 400 ou plus de 400 cadavres enterrés en même temps. Et aussi, les cadavres qui sont enterrés dans leur propre circuit. Il s'agit des cas individuels.
C'était Ida Sawyer de Human Rights Watch, jointe par Eddie Isango.
Au Burkina Faso, l'actualité est dominée par le vote aujourd'hui d'un nouveau code électoral par le Conseil national de transition. Le nouveau code interdirait aux partisans de l'ex-président Blaise Compaoré de briguer des postes électifs lors des prochains scrutins législatifs et présidentiels. Exclusion, justice, qu'en est-il exactement? Bourima Ouédraogo, directeur du journal Le Reporter, au micro de Bagassi Koura.
Le point qui fait polémique, c'est le point qui met hors course les anciens dignitaires du régime Compaoré, notamment le gouvernement en tout cas, Mais expressément, la motion dit que ça explique tous ceux qui ont soutenu le changement inconstitutionnel de la Constitution. Ce qui veut dire que ceux qui ont soutenu la révision de l'article 37, effectivement, sont frappés d'inéligibilité si le projet est adopté en l'état. Mais pour le moment, rien n'est gagné puisque le CNT doit débattre.
Est-ce que là, on parle des candidats aux élections présidentielles seulement ou ça concerne aussi des élections locales et législatives?
Mais logiquement, cette loi doit être valable pour les présidentielles et législatives de 2015 et les municipales de 2016. Donc, toutes les élections de fin de transition.
On imagine aisément que les membres de l'ancien parti au pouvoir sont très furieux.
Oui, l'ancien parti au pouvoir, notamment le CDP et tout, et les partis créés par les anciens du CDP, notamment la nouvelle alliance du parti NAFSA de soutien du candidat, lui dit que ce n'est pas son partenaire. L'union pour le compte du nouveau colonel Yacouba Ouedraogo.
Alors, il y a aussi cette vague d'arrestations. On parle d'une bonne demi-douzaine de membres de l'ancien parti au pouvoir arrêtés, interpellés.
Mais il faut dire que les motifs ne sont pas les mêmes, ça varie selon les personnes qui sont interpellées pour le mal. Par exemple, les maires, certains maires qui sont interpellés pour malversation dans les questions de lotissement, il y a d'autres qui sont interpellés pour trouver un ordre public, il y a d'autres qui sont interpellés pour leur mauvaise gestion aussi des ministères dont ils sont concernés. Et donc, s'ils ont, ils avaient du moins la charge. Toutes les arrestations n'ont pas le même motif pour le moment. En tout cas, pendant qu'on aide beaucoup plus de clarification du côté des autorités.
Mais ça fait quand même une coïncidence troublante avec le vote de cette loi au CNT.
Oui, c'est ce que je disais. Il y en a qui sont arrêtés pour tentative de trouble à l'ordre public. Donc, sans doute que ceux-là sont concernés effectivement par des suspicions d'avoir tenté en tout cas de perturber l'ordre public ou d'empêcher l'adoption de la loi. D'autant plus que certains ne s'en cachaient pas, certains avaient promis effectivement de tout mettre en œuvre pour empêcher l'adoption de la loi.
Bourima Ouedraogo, directeur du journal Le Reporter dans la capitale burkinabé.
Cap maintenant sur le Togo, où les jeunes ne veulent plus que leurs aînés réfléchissent à leur place dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes en leur faveur. Pour ce faire, ils ont initié ce qu'ils appellent les rencontres solidaires, cadre qui leur permettra de discuter de leur avenir, mais aussi de la contribution qu'ils peuvent apporter au développement du pays. Reportage à Lomé, Kayi Lawson.
75% des Togolais ont moins de 35 ans, 60% moins de 25 ans et 40% moins de 15 ans. Mais malheureusement, cette frange de la population ne participe pas suffisamment au processus de développement dans le pays, a constaté la coordination des rencontres solidaires qui ont été instituées pour sensibiliser la jeunesse. Lovejoyce Amavi, coordonnateur national des rencontres solidaires.
Nous avons remarqué que la jeunesse, essentiellement togolaise, est toujours attentiste et donc attend qu'on vienne la chercher et qu'on lui apporte son avenir sur un plateau. Et quand ce n'est pas fait, elle est fâchée. Alors que l'avenir, on ne vous l'offre pas en cadeau. Vous devez vous battre pour cela. Et donc, pour ces rencontres solidaires, il était question pour nous d'inviter la jeunesse pour discuter de comment est-ce qu'elle participe au processus du développement du Togo.
Cette attitude attentiste des jeunes tire sa source du regard que les aînés portent sur la jeunesse, analyse Martin Bossou, représentant de la Jeune Chambre internationale Afrique et Moyen-Orient.
La perception que les aînés ont des jeunes réjaillit forcément sur l'attitude de ces jeunes. Les aînés considèrent les jeunes comme des hopeless, des gens qui sont sans avenir. Quand on ne te fait pas confiance, tu ne pourras pas te faire confiance toi-même. Quand on te dit que tu es incapable, et que tu le veuilles ou pas, tu ne seras capable de rien. Donc il faut que les aînés nous donnent la chance de montrer de quoi nous sommes capables, qu'ils nous confient des responsabilités et nous assumerons.
Dans les pays les moins avancés, il est attendu chaque année environ 15 millions de jeunes sur le marché du travail. Et naturellement, la question de l'emploi et de la formation des jeunes a été débattue lors d'un panel au cours de ces rencontres solidaires. Professeur Kekono Boukpan, l'un des panélistes.
En termes même de formation, il y a un enjeu. Je vous donne l'exemple de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé où j'enseigne, la FACEL, où nous avons 15 000 étudiants, mais vous n'avez pas 20 enseignants-chercheurs, il y en a moins. Et donc le ratio enseignant sur étudiant, ça fait à peu près un enseignant quasiment pour 1000 étudiants. Et donc, vous voyez que ce genre de défi pose problème. Pourquoi ? Parce que ça va faire des étudiants mal formés, donc qui auront du mal à accéder au marché du travail.
Compte tenu du du contexte, le coordonnateur national des rencontres solidaires, estime que les jeunes Togolais doivent définir leur propre projet d'avenir. Love Joyce à ma vie.
Il est important aujourd'hui de se dire, ok, dans 5-10 ans, j'aurai 30 ans, j'aurai 35 ans, 40 ans, mais qu'est-ce que je veux devenir à ce moment-là? Et quand on définit donc ce projet, il faut savoir qu'est-ce que nous pouvons trouver pour pouvoir atteindre cet objectif.
Les rencontres solidaires veulent donner à la jeunesse togolaise sa place de moteur de développement par des actions de veille permanente des politiques, programmes et mécanismes. Kailasson Lomé, VOA Afrique.
La Californie à sec, cet état de l'Ouest américain qui connaît sa pire sécheresse depuis 500 ans, doit impérativement réduire de 25% sa consommation d'eau. Ce plan impliquant collectivités, entreprises et citoyens vise à réduire donc de 25% la consommation d'eau hors agriculture. Pour analyser ces mesures drastiques, Timothée Donangmaï a joint Edgar Colli, professeur à l'Université de Monterrey.
Au niveau de la famille, on est obligé de changer certaines habitudes. Je commencerai par des choses aussi banales telles que prendre une douche. Il faudra quand même penser à toute cette eau qui coule. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles. Par exemple, on ne peut plus arroser la pelouse. Donc, le gazon qui était vert il y a quelques semaines tourne vers le brun. Il faut aussi, avec beaucoup plus de tension, regrouper le linge, n'est-ce pas? Au lieu de faire de petits groupements ici et là, on doit strictement faire attention. Ça, c'est bien entendu une discipline que nous nous sommes imposés nous-mêmes au niveau de la famille. Les voitures, bien, on ne peut plus les laver aussi régulièrement. Il faut peut-être trouver d'autres moyens de les nettoyer, etc. etc.
Qu'en est-il de l'impact sur les entreprises, les compagnies californiennes?
Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait un contrôle. Mais la première chose que le gouverneur Brown a dit, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, une certaine autodiscipline. Cela doit commencer par les individus. Mais le week-end passé, je suis passé devant un concessionnaire de voitures et ils étaient en train d'arroser. C'était vers 10h du matin, le soleil était déjà très haut. Et donc, il y a des gens qui semblent ne pas suivre de près les directives du gouverneur. Je pense que c'est vraiment dommage parce que si on respecte ne serait-ce que la moitié des directives du gouverneur, cela ne devrait pas avoir un impact trop grave, surtout l'industrie agricole, parce que nous sommes ici dans un état qui produit beaucoup de légumes.
Dans ce contexte, une controverse a éclaté au sujet des agriculteurs californiens qui utilisent beaucoup d'eau pour l'irrigation de leurs champs, mais qui paient un tarif moins élevé que les autres utilisateurs.
Mais bien entendu, cela d'abord a une réalité politique, parce que ce sont de grandes surfaces quand même qui utilisent toute cette eau pour faire pousser toutes ces plantes. Et ils ont, je ne sais pas depuis combien d'années, maintenu le tarif de ces entreprises à un prix relativement bas, ce qui est quand même un peu injuste. Alors je ne sais pas si il y a une option pour redresser le prix que payent ces agriculteurs, mais on devrait peut-être commencer par là. Mais voilà, vous savez, quand on touche le côté agricole ici aux États-Unis, que ce soit en Californie ou ailleurs, on touche un grand monstre politique et donc les politiciens ont peur de s'attaquer à cela, mais je crois que dans le contexte de la Californie, quelque chose, en tout cas une mesure exceptionnelle doit être prise parce que ce sont les premiers utilisateurs de l'eau, les industries agricoles.
Le professeur Edgar Colli joint à Monterrey en Californie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap music, notre sujet dans Antenne Libre cette semaine. Pensez-vous que le sport peut être un outil au service du développement et de la paix? Le 6 avril est la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Cette journée veut célébrer le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Et ses promoteurs souhaitent qu'il soit aussi l'occasion de rapprochement entre les peuples et les hommes. Et à ce titre, source de paix dans le monde. Vos points de vue, vos réactions cette semaine dans RM Show au 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
très beau temps ici à Washington, 73 degrés Fahrenheit, mais il va pleuvoir un peu ce soir, Morgan. Nous avions à la technique Micha Dubinsky et Georges Léonard Sagnon à la production.
Présentation Morgan Guiriec et Chérubin Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.